VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Guiriek et John Lyndon. Bienvenue dans cette édition du vendredi 24 juin 2016. Au sommaire ce soir.
Coup de tonnerre en Grande-Bretagne. Les électeurs ont voté hier pour la sortie de l'Union européenne.
Le vote des Britanniques met gravement l'Europe à l'épreuve.
République centrafricaine, les 6 policiers enlevés dimanche dans le quartier PK5 de Bangui ont été libérés.
Au Sénégal, Karim Ouad est libre. Le fils de l'ancien président a été gracié par Macky Sall ce matin. Une libération qui a provoqué un tollé dans le pays.
Pourquoi on a sorti Karim Ouad en prison sans qu'il voie ses militants, sans qu'il voie ses sympathisants, sans qu'il voie ses mouvements de soutien qui les soutenaient depuis 3 ans? Ça, c'est pas normal. C'est un sentiment de désolation, mais ça, c'est grave.
En Afrique du Sud, Jacob Zuma répondra de ses actes devant la justice. C'est une décision de la Haute Cour de Pretoria pour une affaire qui remonte à 2007, bien avant que Zuma devienne président.
Dans moins de 10 minutes, plein feu sur l'Euro 2016, mais d'abord le journal. Le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne après le référendum d'hier. 52% des électeurs ont dit non à Bruxelles. Immédiatement, la livre a plongé de 11%, sa pire chute depuis 1985. Le Premier ministre David Cameron, partisan de l'Europe, a présenté sa démission. Claire Morin-Gibour a joint Luis Ramirez, chef de bureau de la Voix de l'Amérique à Londres.
La conséquence la plus grave était de l'effet sur la monnaie britannique. Le côté positif étant que les économistes disent que la chute peut stimuler les exportations britanniques et profitera à l'économie britannique. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre a immédiatement annoncé vendredi que la banque était préparée pour le choc et a dit qu'ils ont près de 385 milliards de dollars disponibles dans le soutien financier. Sur le plan politique, la Grande-Bretagne est confrontée à une crise. Le Premier ministre Cameron a perdu son mandat politique. Il a déclaré qu'il n'est pas en mesure maintenant de conduire le processus de désengagement de l'Union européenne. Les réactions sur le terrain, les partisans du Brexit parlent d'un jour de l'indépendance de la Grande-Bretagne, où ils ont repris le contrôle de leur pays. Ceux qui sont opposés les uns à l'Union européenne sont préoccupés par les effets économiques et leur liberté de mouvement dans toute l'Europe. Les partisans disent que la relation fondamentale avec l'Europe ne changera pas.
Luis Ramirez, chef de bureau de la Voix de l'Amérique à Londres.
La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a suscité de multiples réactions, plus de 6 millions de tweets et des centaines de déclarations. Le point avec Salwa Jafari.
Tout d'abord, aux États-Unis, le président Barack Obama a affirmé qu'il respectait la décision en ajoutant que le Royaume-Uni et l'Union européenne restaient des partenaires indispensables. Le Kremlin espère que le Brexit permettra une amélioration des relations entre Londres et Moscou. En France, l'optimisme n'était pas au rendez-vous. Réaction du président François Hollande.
Le vote des Britanniques met gravement l'Europe à l'épreuve. Elle doit montrer dans ces circonstances sa solidité et sa force, en apportant les réponses nécessaires pour maîtriser les risques économiques et financiers du départ du Royaume-Uni.
Angela Merkel non plus n'a pas caché sa déception.
Aujourd'hui est un coup dur pour l'Europe et un coup dur pour le processus d'unification européenne. Les conséquences dans les prochains jours, semaines, mois et années dépendront de nous.
Depuis le Vatican, le pape Francis a appelé à ce que ce divorce se fasse à l'amiable pour éviter que ça nuise aux deux parties.
Signalons aussi que le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a assuré aujourd'hui que ce vote historique ne signifie pas le début de la fin pour l'Union européenne.
Après le coup de tonnerre venu de Londres, l'Union européenne a resserré les rangs aujourd'hui pour éviter toute contagion, pressant le Royaume-Uni d'engager sans tarder une procédure de divorce qui s'annonce laborieuse.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République centrafricaine, les 6 policiers enlevés dimanche dans le quartier PK5 de Bangui ont été libérés. Ils ont été reçus aujourd'hui par le président.
Au Sénégal, Karim Wade est sorti de prison ce matin. Le fils de l'ancien président a été gracié par le chef de l'État Macky Sall après avoir été condamné à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. Sa libération a suscité un tollé au sein des associations de lutte contre la corruption. Le point avec Idriss Fall.
Karim Wade a quitté le Sénégal peu après sa libération très tôt ce matin. Sa grâce par un décret de Macky Sall a été annoncée par la présidence peu avant 3 heures du matin à Dakar. Ce pardon concerne également 2 autres co-accusés, Ibrahim Abou Khalil Di Bibo Bourgi et Alun Samba Diassé. L'ancien ministre de la Terre et du Ciel, comme l'avaient surnommé les Sénégalais, était en prison depuis avril 2013. Il a été jugé et condamné en mars 2015 à 6 ans de prison et a payé une amende de 210 millions d'euros. Il a toujours clamé son innocence. 2 jours avant le verdict, le PDS, ancien parti au pouvoir, l'avait désigné comme son porte-drapeau à la présidentielle de 2019. Le mouvement Yanamar, anticipant hier sa libération, a dénoncé une justice inéquitable au Sénégal. Reconnu coupable d'enrichissement illicite et ensuite relâché, c'est un très mauvais message pour le pays, souligne pour sa part la Ligue démocratique, un parti qui siège au gouvernement.
Guinée équatoriale, le chef de l'État, Teodoro Obiang-Nguema, a nommé un nouveau gouvernement après sa réélection le 24 avril dernier. Et à noter que l'équipe compte plusieurs proches parents du président, dont 2 de ses fils.
Le président sud-africain Jacob Zuma pourra de nouveau être poursuivi pour corruption suite à une décision de la Haute Cour de Pretoria ce vendredi. C'est un revers de taille pour le chef de l'État et l'ANC, son parti, à quelques semaines des municipales du 3 août. Les précisions de Lionel Gaïma.
L'affaire a commencé en 2007. Jacob Zuma était accusé d'avoir perçu des pots de vin dans un contrat de près de 5 milliards de dollars conclu en 1999 avec des fabricants d'armes internationaux. 783 charges de corruption, fraude fiscale et rackets ont été retenues contre lui, mais ont été abandonnées en 2009, quelques semaines seulement avant l'élection de M. Zuma à la présidence. Après une longue bataille menée par l'opposition, la justice sud-africaine avait déclaré l'abandon des charges irrationnelles, rendant possible leur rétablissement. Le parquet et le président Zuma ont fait appel, mais ont été déboutés ce vendredi. L'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, a demandé que les poursuites reprennent contre Zuma et qu'il comparaisse devant un tribunal. La présidence sud-africaine et le parquet n'ont pas encore réagi sur ce dernier développement.
Zimbabwe, un chauffeur routier a été condamné à 2 ans de prison pour ne pas avoir laissé passer le convoi du président Robert Mugabe samedi dernier à Harare. D'après le journal privé Newsday, Joseph Chakanetsa a été condamné pour conduite négligente. Le chauffeur routier a également été interdit à vie de conduire un poids lourd par le tribunal d'Harare.
La bataille pour le contrôle de Sirte se poursuit en Libye. Les forces pro-gouvernementales ont repoussé une nouvelle contre-offensive du groupe État islamique. L'armée loyaliste est entrée le 9 juin dans le bastion des djihadistes retranchés dans une zone de 5 km carrés.
Une Palestinienne a été abattue ce jour après avoir blessé 2 civils israéliens dans une attaque à la voiture Bélier. C'était à l'entrée d'une colonie israélienne proche d'Hébron, dans le sud de la Cisjordanie occupée. Il faut dire que les 2 Israéliens, un couple d'une 50aine d'années, ont été légèrement touchés.
Le pape François a dénoncé ce vendredi le génocide des Arméniens en 1915 et 1916 sous l'Empire ottoman, prononçant pour la 2e fois ce mot jugé inacceptable par la Turquie. Cette tragédie, ce génocide a marqué malheureusement le début de la crise serrée, de la triste série des catastrophes immenses du siècle dernier, s'est exclamé au palais présidentiel le pape qui s'adressait au chef de l'État Sergueï Sargsyan. Le mot ne figurait pas dans son texte distribué à l'avance. Il avait prononcé une première fois au Vatican en avril 2015, déclenchant la colère d'Ankara.
Et puis, ici, aux États-Unis, présidentielle américaine, d'un seul mot et du bout des lèvres, le sénateur Bernie Sanders a admis ce vendredi qu'il voterait pour sa rivale Hillary Clinton en novembre prochain. Mais le sénateur de 74 ans, qui a récolté 13 millions de voix aux primaires démocrates et quelques 1900 délégués, a ajouté qu'il n'avait pas l'intention de suspendre sa campagne. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nous passons à présent au sport avec le journal de l'Euro 2016.
Nous passons au sport à présent dans cette émission avec le journal de l'Euro que nous présente Bagassi Koura. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir John, bonsoir à tous.
Avant de parler de l'Euro, un mot sur le tirage au sort des poules éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en zone Afrique effectué ce vendredi au Caire.
Oui, voici la composition donc des cinq groupes. La RD Congo se retrouve dans le groupe A avec la Tunisie, la Libye et la Guinée. Le groupe B, très choc, verra le Cameroun, l'Algérie, le Nigeria et la Zambie ensemble. Dans le groupe C, on a le Gabon, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Cap-Vert se retrouvent dans le groupe D. Et enfin, dans le groupe E, le Ghana, l'Égypte, le Congo et l'Ouganda.
On passe à l'Euro à présent. Il n'y a pas eu de match hier, il n'y en aura pas aujourd'hui non plus. Mais Bagassi, les choses reprennent ce samedi.
Oui, les huitièmes de finale débutent demain. L'affiche est connue. Il s'agit d'un plateau avec des équipes plus ou moins attendues, mais aussi et surtout quelques nouveautés à l'initiative de pays loin d'être habitués aux phases finales de compétition internationale. Bref, le moins que l'on puisse dire, Nicolas Pinault, c'est que le tableau est plus que déséquilibré.
Suisse-Pologne, Croatie-Portugal, Pays de Galles, Irlande du Nord et Hongrie-Belgique, c'est le programme. A priori, la Belgique semble avoir la partie facile. Mais attention, on sait qu'en football, rien n'est jamais joué d'avance. On l'a vu avec l'élimination de la Suède, de Zlatan Ibrahimovic, ou encore les qualifications pour les huitièmes de finale des pays comme l'Islande, le Pays de Galles ou la Hongrie.
Arrêtons-nous un instant sur cette confrontation demain à 19h temps universel entre la Croatie et le Portugal.
Oui, la Croatie contre le Portugal, c'est l'affiche choc de ce samedi avec un parfum de classico espagnol. Salwa Jafari.
Oui, Bagassi, ce sera Cristiano Ronaldo, le madrilène, contre Ivan Rakitic, le barcelonais. Le duel de stars du Portugal et de la Croatie lors de ce huitième samedi à Lens. Les Croates qui peuvent compter sur un collectif à la fois solide, technique et surtout indépendant de ses fortes individualités, comme le prouve le succès contre le double tenant du titre espagnol avec un 11 très remanié. A l'inverse, Cristiano Ronaldo s'est retrouvé esselé à la pointe de la sélection portugaise lors des trois premiers matchs de poule. Et il a dû sauver à lui tout seul son équipe avec un doublé héroïque face à la Hongrie 3-3. Demain, le match promet et l'on saura alors si le Portugal a retrouvé ses marques.
Et dimanche, toujours en huitième de finale, la France rencontre l'Irlande dans un match aux allures de revanche. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouet.
Bonsoir. En dehors de la prometteuse opposition de style que ne vont pas manquer de nous offrir la France et l'Irlande sur l'aire de jeu, le stade de la Lumière de Lyon accueille ce dimanche un match à la saveur très symbolique. Tout le monde se souvient comme d'une cicatrice de la précédente empoignade du Stade de France en 2009 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde sud-africaine et ce but de la main de Thierry Henry qui avait enflammé la planète foot. La bavure arbitrale avait fait frôler l'incident diplomatique et Thierry Henry, un des tout meilleurs attaquants des années 2000-2010, aux côtés de Zidane, Ronaldinho, Eto'o ou Drogba, avait eu droit à une sortie de scène catastrophique indigne de son rang. L'équipe de France enchaînant avec un mondial cauchemardesque. L'adage populaire l'affirme, un clou chasse l'autre. Les deux formations trouvent ici l'occasion rêvée de faire oublier cet épisode malheureux en nous offrant un huitième de finale plein, limpide et enlevé, comme savent l'être les matchs à élimination directe à ce stade de la compétition. Alors, l'incident de 2009 ne sera plus qu'un accident, une simple anecdote dans la longue histoire du football européen. À lundi.
Pour terminer, demain aussi le match de classement en Copa América.
Oui, les États-Unis ont l'occasion de finir sur une bonne note face à la Colombie lors du match pour la troisième place. C'est ce samedi à minuit temps universel, 20h heure locale, à Glendale en Arizona.
Voilà pour ce journal de l'Héros. Merci Bagassi.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a inauguré jeudi soir un nouvel aéroport international à 20 km de Nouakchott pour remplacer l'ancien qui était dans la capitale. Sa mise en service intervient à un mois de la tenue à Nouakchott du 27e sommet de la Ligue arabe qui s'ouvrira le 25 juillet. L'épidémie de grippe aviaire au Cameroun a engendré quelque 10 milliards de francs CFA de pertes, selon le président de l'interprofession avicole, François Djenou. Toutefois, la production en poulet de chair se porte bien. Elle est passée de 31 à 50 millions de têtes entre 2011 et 2015 et le cheptel de poules pondeuses est passé de 3,5 à 5,5 millions. L'Union gabonaise de banques a signé un partenariat avec JA Gabon pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. L'UGB va financer deux programmes à hauteur de 30 millions de francs CFA, octroyer des crédits à 5% aux meilleurs projets et proposer des ouvertures de comptes avec exonération totale des frais la première année.
Morgan Grillier et John Lydon en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Londres.
Les conséquences économiques du Brexit vendredi matin. Aujourd'hui donc, les bourses mondiales sont en chute libre. Le pétrole est à nouveau passé en dessous des 50 dollars. La livre sterling est au plus bas depuis plus de 30 ans. Les marchés mondiaux redoutent une crise pire que celle de 2008. Pour une analyse, Claire Morin-Gibourg a joint l'Atlantic Council, l'économiste Anders Oslund.
Maintenant, c'est une grande incertitude. Les marchés financiers n'aiment pas l'incertitude. Les conséquences, c'est des grandes pertes financières aujourd'hui de 7% en général en Europe aujourd'hui. C'est simplement le commencement d'une catastrophe financière, pas du tout nécessaire. Et la conséquence, ce sera qu'on réduire l'investissement et la croissance consommation et donc la croissance économique.
Est-ce que vous pensez que dans les relations, par exemple, entre l'Europe et les États-Unis, cela va avoir des conséquences également ?
L'Angleterre, c'est simplement et pour les États-Unis et aussi pour l'Europe, c'est simplement un problème. Et pour l'Europe, ça sera très important de ne pas avoir plus de catastrophes comme l'Angleterre.
On parle beaucoup de la renégociation de beaucoup de traités économiques. Qu'en pensez-vous ?
Pour l'Union européenne, c'est maintenant très important d'être très dur vers l'Angleterre, parce que ça sera attractif pour des pays autres de faire la même chose. Alors, une renégociation sera pas du tout attractif pour l'Angleterre.
D'un point de vue économique, qu'est-ce qui vous inquiète le plus comme conséquence de ce Brexit ?
Je pense que cette incertitude restera longtemps. Ça veut dire moins consommation, moins investissement et moins croissance économique.
Est-ce que cela va renforcer l'économie britannique?
Non, c'est presque impossible parce que pour les grandes entreprises américaines, ce n'est pas intéressant maintenant d'être en Angleterre parce qu'il faut vendre et exporter à l'Europe et ce n'est pas du tout clair.
Voilà, c'était Anders Aslund, économiste et chercheur pour le think tank Atlantic Council.
L'onde de choc a traversé l'Atlantique pour atteindre Wall Street. Quelles pourraient être les conséquences de ce Brexit sur l'Afrique? Eric Manirakiza a joint à Dakar le manager du programme gouvernance économique au sein de l'OCIWA, Open Society Institute West Africa, Ibrahima Aïdara.
Il est assez tôt aujourd'hui pour évaluer avec précision les impacts potentiels ou possibles de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il y aura des impacts.
Qu'est-ce qui pourrait changer demain?
Au-delà de ces tensions financières, aujourd'hui, la plupart des régions avaient signé des accords de partenariat économique, des accords commerciaux avec l'Union européenne. Aujourd'hui, la sortie signifierait que au moins la relation du Royaume-Uni à l'Afrique en termes de commerce va être modifiée. Ces deux entités doivent négocier ou soit de façon bilatérale ou entre le Royaume-Uni et les régions africaines. Les relations commerciales vont être modifiées. Sur les exportations britanniques en Afrique, il se pourrait que les coûts soient beaucoup plus élevés et que les prix soient élevés en Afrique. Évidemment, les exportations africaines vers le Royaume-Uni aussi peuvent donc subir des taxes, étant donné que les avantages qu'il y a dans la relation à travers les APE n'existeraient plus. L'autre conséquence qu'on peut imaginer, c'est au niveau de l'aide au développement de l'Union européenne à l'Afrique, étant entendu que le Royaume-Uni est le troisième contributeur en matière d'aide de l'Union européenne à l'Afrique. Mais il se pourrait que le Royaume-Uni utilise cet argent-là pour négocier ses relations directement avec l'Afrique. Dans l'immédiat, effectivement, il va falloir réviser certainement les prévisions qui ont été faites avant ce séisme du Brexit.
Vous parlez des négociations directes, sans doute dans le cadre du Commonwealth, mais on sait que la première économie africaine, le Nigeria, son partenaire économique, ce n'est pas la Grande-Bretagne, c'est la France.
Le Commonwealth, c'est les pays anglophones. Et là, les relations que ces pays anglophones ont avec le Royaume-Uni, c'est tout à fait particulier. Mais je parle de façon globale, aussi bien des pays anglophones que des pays francophones qui constituent des groupes régionaux qui ont signé des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Je suis d'accord avec vous que les pays individuellement seront impactés de façon différente selon les types de relations et l'intensité de ces relations qu'ils ont avec le Royaume-Uni. Probablement, le Nigeria sera impacté différemment par rapport au Kenya, dans un sens ou dans un autre, en fonction des types de relations et des flux commerciaux que ces pays ont respectivement par rapport au Royaume-Uni.
Ibrahima Aïdara, Dakar.
Partons maintenant au Sénégal. Karim Ouad est libre. L'ancien ministre, fils de l'ex-président Abdoulaye Ouad, a bénéficié d'une grâce présidentielle. Il a quitté la prison de Rabat vers 1h30 ce matin avant de s'envoler vers Paris, avec pour destination finale Qatar. De Dakar, la correspondance de Sorna Natambaye.
Les Sénégalais ne s'attendaient certainement pas à ce scénario. Karim Ouad, libéré en catimini, est mis dans un vol pour Paris, ensuite le Qatar. Des proches, soutiens ou militants du Parti démocratique sénégalais se sont précipités au point E où se situe la maison des Ouad, mais pas l'ombre du fils. Il n'empêche, la bataille continue. Demba Dan, coordonnateur national des Karimistes.
Pourquoi on a sorti Karim Ouad en prison sans qu'il voie ses militants, sans qu'il voie ses sympathisants, sans qu'il voie ses mouvements de soutien qui les soutenaient depuis 3 ans? Ça, c'est pas normal. C'est un sentiment de désolation. Mais ça, c'est grave. Pourquoi on l'a estradé? Ça, c'est de l'estradation. On l'a estradé.
Le ministre de la Justice, Sidiki Kaba, en conférence de presse ce matin, insiste sur le non-événement que constitue la libération de Ouad fils.
L'exercice de cette magnanimité souveraine ne procède nullement d'une démarche singulière ou exceptionnelle. Elle est au contraire inscrite dans la continuité d'une action républicaine à laquelle ont souvent eu recours ses prédécesseurs.
A souligner que les co-accusés de Karim Ouad, Aliou Samba Diassé et Bibou Bourgi, bénéficient également d'une grâce. Par ailleurs, comme certains pourraient le croire, la grâce présidentielle n'efface pas les charges retenues et surtout celles financières. Maître Sidiki Kaba.
La remise partielle de la peine d'emprisonnement qui leur est accordée n'efface pas la condamnation qui figure circulent toujours dans leur casier judiciaire. Il en est de même des peines d'amende, des intérêts civils et des biens confisqués qui concernent le préjudice subi par l'État. Leur recouvrement sera poursuivi par l'agent judiciaire de l'État qui s'y active déjà depuis quelques mois.
Toutefois, Sidiki Kaba n'a pas voulu se prononcer sur la présence évoquée du procureur général du Qatar à bord du jet privé qui transporte Karim Wade. Quelle sera la suite de l'affaire Karim Wade? Reviendra-t-il au Sénégal pour être le candidat du Parti démocratique sénégalais à la prochaine présidentielle? Motus, pour le moment, du côté des libéraux. Personne ne veut parler. Sornana Tambay, Dakar, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
C'est un revers pour le président Barack Obama. L'une de ses mesures phares visant à éviter l'expulsion pour les étrangers en situation irrégulière vient d'être bloquée par la Cour suprême des États-Unis. Pour des éclaircissements, Anastasie Tudiech a joint à New York Bakary Tandia, militant pour les droits des étrangers. Il réagit à la décision de la Cour suprême.
C'est une déception totale. Comme vous le savez, il y a plus de 11 millions de sans-papiers dans ce pays. Ce que la Cour suprême bloque, c'est l'ordre exécutif que Obama a signé pour donner l'opportunité aux immigrants qui sont ici, qui sont arrivés sur le territoire américain très jeunes, qui ils ne peuvent pas avoir accès, par exemple, à l'éducation dont ils ont besoin. Ils n'ont pas l'autorisation de travailler. Leurs parents sont également dans la même situation. Bon, donc, ce que cette décision fait, c'est de donner une situation intermédiaire à ces personnes-là, leur permettant d'avoir l'autorisation de travailler en attendant de trouver une situation légale définitive.
Comment comprenez-vous que 26 États, le Texas en tête, se soient opposés à cette mesure du président Obama, l'accusant notamment d'abuser de son pouvoir?
C'est une opposition aveugle à toutes les initiatives du président. Et finalement, ils ont essayé de politiser une situation humanitaire, ce qui est totalement immoral.
Et en même temps, Barack Obama a été surnommé expulseur en chef par ses détracteurs démocrates.
Absolument, absolument. Sous Obama, nous avons dénoncé cette situation. Et c'est justement par rapport à cette situation que nous avons monté en fait cette campagne et qu'il a amené à signer l'ordre exécutif qu'il a signé.
Pensez-vous que cette décision de la Cour suprême va avoir un impact sur la campagne électorale et si oui, lequel?
Ça va galvaniser, par exemple, les étrangers qui sont ici d'une manière générale. Tous les musulmans, les latinos, même lorsqu'ils sont citoyens, une partie de leur famille peut ne pas l'être. Ils seront favorables à un candidat qui serait disponible à prendre des mesures pour protéger tout le monde.
Bakary Tandia, joint à New York par Anastasie Tudiech.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Josèle Morissin à la mise en onde, Nick Ivanov à la console, présentation Morgan Guerriac et John Lindon.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous suivez sur Facebook. Vous êtes déjà plus d'1 250 000 fans. On maintient donc la conversation. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.